La Fée d'Arlane, c'est un jardin, un espace naturel dédié à la permaculture qui existe depuis une dizaine d'années près du village de Dauphin, tenu et entretenu par Bruno Doumézel. La permaculture peut se définir comme une méthode qui consiste à concevoir, planifier, aménager et maintenir des écosystèmes productifs afin de proposer une alimentation saine pour tous et toutes et pourquoi pas d'envisager une nouvelle philosophie de vie. Au micro de Fréquence Mistral, Bruno Doumézel, ancien chef cuistot bio et permaculteur, nous fait découvrir en 5 épisodes ce lieu magique, son histoire, ses liens à la permaculture, sa passion pour le vivant et les différents stages qu'il organise ouverts à toutes et à tous. Épisode 1, Bruno Doumézel, la permaculture et ses précurseurs. Bonjour Bruno Doumézel, peut-être peut-on commencer par le nom de ce lieu, la Fée d'Arlane, qui n'est pas un nom anodin puisque c'est un nom que vous avez choisi.
Arlane est un clin d'œuvre à l'œuvre de Genoux. Genoux a écrit un scénario d'une pièce de théâtre en 1932. Il revenait de 14-18, il avait vécu pas mal de choses, donc il a écrit pas mal de livres, dont Le Grand Troupeau, qui est un livre vraiment très vif et très cru sur tout la description de tout ce qu'il a vécu. Et il a eu une interrogation donc dans les années 30, il est devenu un petit peu une humaniste et aussi s'intéresser à l'écologie. Donc il avait un regard sur l'écologie avant-garde. Donc dans le scénario d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Lanceur de graines », que très peu de personnes connaissent, donc le scénario de « Lanceur de graines » était un scénario de permaculture en 32. Et ça, il fallait une sensibilité pour le transcrire dans un scénario. Bien sûr, ce scénario n'a pas eu beaucoup de succès, puisque dans les années 30, très peu de personnes avaient un regard sur l'écologie, sur l'influence de tout ce qui est le gros business qui s'est développé par rapport à tout le reste. Et donc, le nom de la propriété des lanceurs de graines s'appelle Arlane. Il y a aussi un camping naturiste du côté de Varnassol qui s'appelle le Petit Arlane également. Donc on est deux dans la région à avoir lu ce scénario. Voilà, pour l'historique.
La permaculture, c'est un terme qui parle aujourd'hui à de plus en plus de gens, mais il est important de revenir sur ce mot. C'est un souci, une méthode qui s'approche des écosystèmes, qui propose une dynamique des écosystèmes, et le mieux c'est que vous le définissiez vous. Cette philosophie même, pourrait-on dire, au-delà d'une méthode.
Oui, mais c'est une grande passion que je développe depuis les années 70. À l'époque, j'avais ouvert un petit restaurant bio, donc et un petit magasin bio dans les années 70. Hein, c'était des petites structures de 60 mètres carrés, 80 mètres carrés. Maintenant, bon, c'est 400 mètres carrés bien souvent, ou 300 mètres carrés, des petits supermarchés. Et donc j'ai découvert à travers les livres de Bill Mollison et de David Green donc les premiers livres de permaculture qui sont sortis fin 70, début des années 80. Et ça a été de suite une passion puisque j'étais engagé déjà dans le mouvement de l'agriculture bio avec l'association Nature et Progrès qui a démarré déjà dans les années 60. Donc et c'était une association qui n'était pas très 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 âgée déjà. Et donc quand j'ai lu les livres de permaculture, donc tout de suite, j'ai été touché par ma sensibilité, donc au niveau personnel d'abord. J'ouvre une parenthèse quand même, parce que aussi dans les années 70, on avait aussi un japonais à l'autre bout de la planète qui s'appelait Masanabu Fukuoka, qui a écrit un livre qui s'appelle « La révolution d'un brin de paille ». Et ça a été un des précurseurs aussi dans la pratique agricole de non-labour. Et je vais l'expliquer un petit peu pourquoi. En fin de compte, il y a une façon d'envisager tout ça pour permettre aux micro-organismes, aux bactéries et aux vers de terre d'améliorer le sol, d'aggrader le sol de façon à ne plus avoir besoin de labourer. Surtout pour des jardins, des petites surfaces, pour commencer bien sûr. Mais Masanabu Fukuoka le faisait sur plusieurs hectares déjà de rizières. Hein. Il y avait aussi Jean-Pin dans le département, dans le Var, du côté de l'Orgue. Salerne, qui pratiquait un petit peu ce genre d'agriculture, donc avec sur des bases de compost en grande quantité. Et de son compost, il tirait aussi le gaz, le méthane. Donc il avait une deux chevaux à l'époque qui fonctionnait avec ce gaz. Et il chauffait sa maison, puisque vous savez que quand on a des gros tas de compost, il était forestier, donc il avait à sa disposition des tonnes de compost. Il avait mis un serpentin, un tuyau de cuivre ou de plastique à l'intérieur de ce compost. Vous savez qu'un compost, quand il chauffe bien, il peut monter à 60-70 degrés. Et une partie de sa maison était chauffée en partie par la chaleur de ce compost. Et bien sûr, il avait un petit jardin dans la pinède de l'Orgue, dans la montagne, pratiquement presque sur du rocher, sans aucune terre agricole valable. Et là-dessus, il mettait son compost bien mûr, 30 cm à peu près, et il arrivait à produire, et ça, il faut l'avoir vu pour le croire, hein, mais il n'arrosait pas. Personnellement, je ne peux pas avoir 30 cm de compost, je ne peux pas. Moi, j'arrose toujours un petit peu, bien moins, bien sûr, que d'autres, mais voilà. Et il y avait aussi, dans les années 70, un Africain, donc, dans un petit village perdu en Afrique. Ce sont des gens qui ne parlaient pas de permaculture, mais qui appliquaient tous ces préceptes. Cet Africain, donc, a fait refaire le désert grâce à une méthode qu'on utilise en permaculture. On crée des trous dans le sol, on met du bois, on met de la paille, du foin et du fumier, de la terre, bien sûr, et là, on peut planter un arbre. Et là, ce monsieur a permis aux arbres de pousser. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique, quand on enterre un tronc d'arbre, de suite, les termites arrivent. Les termites ont fait des trous énormes et ont désagrégé ce tronc d'arbre en très peu de temps. Et aussi, elles ont fait des galeries immenses autour du tronc d'arbre. Quand la période des pluies est arrivée, l'humidité a suivi le chemin des galeries des termites et le sol a stocké de l'humidité pour 2 à 3 mois. Alors que contrairement, si le sol est lisse, nu, il y a une inondation très très rapide et le sol absorbe très très peu d'humidité. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les grandes cultures intensives à l'heure actuelle où il n'y a plus de vers de terre. Donc, voilà, donc dans cette période, dans les années 70, il y avait déjà des précurseurs. Et moi, j'ai été touché par cette démarche. Donc, par rapport à l'agriculture biologique, qui est un complément, je dis toujours que la permaculture permet de relooker un petit peu l'éthique de l'agriculture bio, par 3 points d'éthique. Le premier, c'est prendre soin de la nature, le sol, les forêts, l'eau et l'air. Le deuxième point, c'est prendre soin de l'humain, soi-même et les communautés futures. Hein. Et ça, on ferait bien de s'en inspirer. Et le troisième point, c'est créer l'abondance et redistribuer les surplus. Ça, c'est 3 points d'éthique importants. Je termine aussi par un autre point très important, c'est-à-dire le jardinier permaculteur devient un partenaire donc avec toute la vie, la microfaune, la microflore du sol. Tous les insectes donc développent aussi une mentalité d'éleveur, éleveur entre guillemets. Hein. Pourquoi ? Parce que je suis à l'origine d'un élevage de milliers de bactéries et de tonnes de vers de terre sur une surface à peu près de 1000 à 2000 mètres carrés environ. Un éleveur se doit d'héberger et de nourrir correctement tous ces micro-organismes, et j'expliquerai plus tard un petit peu ce que ça veut dire et ce que ça entraîne.
Dernière question autour de la permaculture. C'est une appellation reconnue ou c'est juste une forme de reconnaissance entre les personnes qui pratiquent ce que vous avez décrit en termes de philosophie de vie, en termes de manière de faire au niveau du sol. Est-ce qu'on peut se revendiquer jardinier à permaculture ?
Oui, alors, oui, très, très, très juste, très, très bonne question. Alors, dans le passé, donc, depuis les années 70, certains pratiquaient la permaculture sans le savoir. C'est un petit peu comme Monsieur Jourdain, hein, n'est-ce pas, qui pratiquait la prose sans le savoir. Donc, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient cette approche. Mais la permaculture n'est pas simplement une préoccupation au niveau de l'aspect agriculture, nourriture et tout ça. C'est aussi ce qu'on est en train de développer dans la société civile, la fleur de la permaculture, la permaculture humaine. Voilà, mais là, j'en parlerai pas maintenant, mais si les auditeurs sont intéressés pour aller plus loin, tapez sur Internet permaculture humaine et vous allez trouver plein d'informations là-dessus. On prend les mêmes concepts de base et on les applique aussi à d'autres contextes, le contexte économique aussi, le contexte santé, alimentation. En tout cas, permaculture, il y a des formations certifiantes également qui sont mises au point depuis plusieurs années par des groupes structurés qui s'inspirent de l'enseignement de Bill Mollison et David Ogreen au départ. Donc, vous pouvez, si certains auditeurs sont intéressés donc pour développer une activité professionnelle, vous pouvez avoir une formation certifiante. Donc, mais vous savez que tout le monde peut pratiquer la permaculture en utilisant certaines bases, peut-être qu'on va développer tout à l'heure.
C'était l'épisode 1 autour de la fée d'Arlane, Bruno Doumézel, la permaculture et ses précurseurs. Et retrouvez l'ensemble des épisodes autour de la fée d'Arlane et de Bruno Doumézel sur notre site internet fréquencemistral.com.